Bonjour à tous et bienvenue dans Hacker News Daily, le podcast qui décrypte l'actualité de la communauté tech. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Au programme aujourd'hui, une grosse discussion autour de la confiance qu'on peut accorder aux agents d'intelligence artificielle, l'arrivée d'un nouvel agent de codage et une plongée dans ce fameux article sur le brouillage des liens, la mort des liens sur le web.
On parlera aussi d'une nouvelle génération de modèles chez Google et chez DeepSeek, sans oublier les filigranes textuelles et leur efficacité très relative, ainsi que la fameuse question du choix de la technologie dite ennuyeuse.
De quoi alimenter une bonne heure de discussion. C'est parti pour ce numéro de Hacker News Daily.
Un fil Hacker News ouvert autour de l'article de The Economist « Les agents d'IA mentent, trichent et volent » a tourné à la discussion philosophique sur la nature de ces comportements. Le commentaire le plus remarqué signale que l'IA, et à terme l'AGI, agit par définition selon ce pourquoi elle est récompensée. Or, notre société récompense massivement le mensonge et le gain par tous les moyens. La réussite se mesure à la richesse et au statut, et ceux qui en possèdent le plus y sont souvent arrivés ainsi.
Et l'auteur du fil conteste ce cynisme. Il rappelle que la civilisation repose sur la capacité de grandes populations à se coordonner dans le temps et dans l'espace, et qu'un mensonge, une tricherie et un vol généralisé finiraient par la saper. Un autre intervenant précise que ceux qui contrôlent le plus de ressources sont rarement ceux qu'on jugerait dignes d'honneur, et pose la question ouverte. Comment la société devrait-elle montrer la voie pour vivre honorablement?
Un autre résume plus sèchement. L'IA agit comme un junior dans une organisation avec des indicateurs de performance à atteindre. Et un participant renvoie au concept d'instrumental convergence sur Wikipédia. L'idée que, poursuivant des objectifs très différents, les agents finissent par adopter des stratégies communes pour y parvenir. Un lancement Hacker News présente Bullet, présenté comme un agent de codage plus rapide. Ses fondateurs, fraîchement sortis d'Applovin et de Citadel, racontent avoir démarré à l'université puis déroulé 6 pivots jusqu'à traiter un problème qu'ils vivaient eux-mêmes, passer des heures à attendre les agents comme Claude Code et Codex. Bullet est né comme projet parallèle en utilisant Claude Code pour améliorer Claude Code.
L'idée centrale, c'est que la vitesse du modèle compte moins que la réduction des allers-retours. Le poste détaille le routage des modèles, ne pas confier à un modèle simple une tâche qu'un modèle plus fort ferait mieux. Une recherche ciblée du code, sans plonger tout le dépôt dans le contexte, et une hygiène de contexte agressive. Sortie d'outils bornés, capture périmée supprimée, pas de relecture inutile des fichiers.
En interne, ils annoncent 16% d'allers-retours en moins et 27% de coûts en moins. Sur le benchmark SWM Bench Verified, la mesure avancée est de 479 problèmes résolus sur 500 en un essai, en moyenne 119 secondes par tâche, soit selon la tâche de 35 à 67% plus rapide que la référence comparée. L'usage le plus prometteur signalé, les travaux itératifs longs, comme les benchmarks, les pipelines de données et les boucles d'évaluation. Un article intitulé « La compréhension est le nouveau goulot d'étranglement », version écrite d'une conférence de Geoffrey Litt, 10 ans ingénieur chez Notion, soutient qu'il reste essentiel pour les humains de comprendre le code que leurs agents écrivent, alors même qu'ils le produisent plus vite qu'on ne peut l'absorber.
Il oppose deux raisons de comprendre. Comprendre pour vérifier, un jugement binaire alors que les agents vérifient de mieux en mieux leur propre travail. Et comprendre pour participer. Un projet est une série de boucles itératives avec l'agent, et la compréhension conditionne la capacité à concevoir l'idée suivante. Il relie cela à la dette cognitive, popularisée par Margaret Story et Simon Willison, avec une citation de Story. « Les humains impliqués peuvent avoir simplement perdu le fil de l'histoire. »
Ces techniques s'inspirent de l'éducation, du code expliqué avec documentation, des quiz pour vérifier sa compréhension, des micro-mondes à explorer et des espaces partagés. Il présente sa compétence interne utilisée quotidiennement, qui génère des explications structurées en HTML, Markdown ou documents Notion, avec un avertissement de partialité, puisqu'il travaille chez Notion. Deux principes guident ces explications. Enseigner d'abord le contexte existant, puis l'intuition avant les détails, l'objectif du changement étant énoncé avant tout code. Dans la discussion, un participant cite Michel Hashimoto, « Je lis le code ». L'application de bureau ChatGPT pour Linux est désormais disponible en pré-version, selon l'annonce sur la communauté des développeurs OpenAI. Elle réunit ChatGPT, Work et Codex dans une seule expérience de bureau natif, présentée comme un espace de travail pour gérer des projets, travailler avec des fichiers, utiliser des workflows navigateurs et exécuter Codex aux côtés de ChatGPT. Les systèmes officiellement pris en charge incluent Ubuntu 24 avril et 26 avril LTS, Debian 13, Fedora 43 et 44, en architecture x64 et ARM64.
La discussion démarre sur une confusion d'accès. Certains commentateurs rapportent que le lien affiche codex selon le système d'exploitation de l'utilisateur et mène vers une page avec un lien de téléchargement pour Windows. Un autre renvoie vers la documentation pour obtenir le lien Linux.
Plusieurs participants se demandent en quoi cette application diffère d'un usage dans le navigateur, si elle repose sur Electron. Un commentateur, l'ayant déjà installé comme application sur son bureau, dit n'en voir aucune différence. Et lorsqu'on demande si l'application peut accéder aux fichiers locaux pour un projet de code, la réponse, accès à votre ordinateur, dissuade un autre utilisateur de télécharger l'outil. Google a publié Gemini 3 juillet Flash, présenté dans l'article officiel comme « notre modèle de travail le plus intelligent à ce jour pour le codage et les agents ». La sortie intervient 3 semaines seulement après Gemini 3 juin Flash, en réponse directe au retour des développeurs et à des innovations algorithmiques.
Le prix d'introduction est de moitié par rapport au coût initial de 3 juin Flash par million de jetons. Un commentateur cite précisément 75 centimes par million de jetons en entrée et 3,75 $ par million de jetons en sortie, disponibles jusqu'à la fin de l'année. Les gains revendiqués par rapport à 3 juin Flash incluent une progression en précision de codage, des résultats supérieurs sur des benchmarks d'agents et des progrès en débogage et en précision du code de première passe.
La discussion sur le prix d'introduction est révélatrice. Un participant en conclut qu'aucun développement significatif de Flash n'arrivera avant l'année prochaine. Un autre y voit une volonté de rester compétitif, estimant que Gemini serait en retard partout, sauf peut-être en multimodal, et qu'un 3 août Flash reste possible d'ici là. Un rappel d'un autre commentateur que Gemini 4 serait imminent, tandis qu'un autre note que 3 Mais Pro était déjà annoncé comme imminent, de quoi douter de la fiabilité de ses promesses. Commençons par une annonce qui concerne autant la vitesse que l'infrastructure derrière les modèles. Cerebra et OpenAI ont dévoilé un aperçu d'un nouveau palier de services baptisé Ultra Fast Mode, lancé d'abord dans l'API d'OpenAI et alimenté par les puces de Cerebra. Dans l'article qui accompagne la démonstration, Cerebra affirme que GPT-5 P1-6 seul en mode Ultra Fast peut produire jusqu'à 750 tokens par seconde, sans compromis sur la qualité des réponses. Pour donner une échelle, l'entreprise compare ce chiffre aux vitesses rapportées par un site indépendant d'analyse. Sur cette base, son modèle tournerait 11 fois plus vite que Claude Fable 5 et 5 fois plus vite qu'Opus 4 Root en mode rapide.
Et ce n'est pas qu'une question de débit brut, car Cerebras a aussi poussé le modèle sur des tests de fond. Sur un benchmark exigeant, réservé à des questions de niveau doctorat en chimie, en économie ou en littérature, le modèle a répondu aux 2500 questions en un peu plus de 11 heures contre 78h30 pour Fable 5, le tout avec une exactitude comparable. C'est presque 7 fois plus rapide sur un exercice réel. Tout cela reste un aperçu, l'accès étant réservé à un premier groupe de clients avant d'être élargi. Reste aussi à voir si ces gains tiennent à l'usage réel, mais l'argument de Cerebras est clair, la vitesse n'aura pas à se payer sur la qualité.
Autre actualité marquante côté tarification, DeepSeek vient d'annoncer une refonte des prix de son API à l'occasion de la sortie de sa gamme V4. Le changement tient en deux idées. D'abord, l'introduction de tarifs de pointe et hors-pointe, les créneaux hors-pointe coûtant 50% de moins que les créneaux de pointe, ce qui est censé laisser aux équipes plus de flexibilité pour planifier leur charge de travail. Ensuite, le lancement d'une nouvelle variante, V4 Pro, qui mise sur les agents, avec un effort de raisonnement ajustable selon la difficulté des tâches, et un support natif de l'API Response d'OpenAI.
La nouvelle entre en vigueur le 16 août prochain, et c'est surtout la hausse des prix qui domine la conversation là-dessus. Un commentateur a résumé le sentiment général, avec une augmentation d'environ 3 fois sur certains tarifs, un concurrent apparaît désormais comme la meilleure affaire. Quelqu'un d'autre a relevé une hausse beaucoup plus marquée, de l'ordre de 6 à 12 fois, sur le prix de ce qu'on appelle le cache de lecture sur le modèle Pro, un détail technique important, car ce cache peut représenter plus de 90% des tokens d'entrée lors de longues sessions de codage agentique. DeepSeek le sous-tarif est clairement avant. La question est de savoir si cette remise était tenable, et un troisième intervenant rappelle que ce rattrapage est peut-être simplement le retour de bâton annoncé, puisque les concurrents n'ont probablement cassé leur prix que pour répondre au positionnement agressif de DeepSeek.
Passons à un sujet qui prend un tour éminemment politique. Un fil récent a mis en avant Mistral OCR 4 janvier, la nouvelle version du service de reconnaissance optique de caractère de Mistral, décrite comme le moteur qui alimente sa pile documentaire. Elle apporte notamment un moyen de récupérer la position des blocs de texte dans la page, les étiquettes de structure et une note de confiance pour chaque bloc. Les tarifs affichés tournent autour de 3,50 € pour 1000 pages et le modèle est présenté comme encore en public preview. Mais dans le fil de discussion, c'est à peine s'il est question de ce service.
Non, la discussion s'est très vite polarisée sur le rôle de Mistral et de la régulation européenne. D'un côté, un commentateur estime que les concurrents chinois ont fait mieux et que Mistral ne survit que grâce aux régulations. Un autre renchérit, avec un marché quasiment garanti par les entreprises et les gouvernements européens, Mistral serait une société qui ne peut presque jamais échouer. Et quelqu'un ajoute que, après des dossiers comme Chat Control, il voit une forte demande européenne pour les outils de modération de contenu, dont la gamme de Mistral. Mais un autre intervenant inverse l'argument en soulignant que ce sont précisément les acteurs chinois qui réussissent et que le marché protégé ne protège en réalité personne. Bref, le fil en dit plus sur la question de la place de l'Europe dans la course à l'IA que sur l'OCR lui-même.
Penchons-nous maintenant sur le débat qui monte autour des filigranes textuels pour l'IA. L'argument porté par un article récent est provocateur. Ce type de filigrane sera toujours trivial à retirer. Le contexte est concret. L'AI Act européen devient applicable le mois prochain, en août, et son article 50 exige que toute sortie d'IA soit détectable comme générée artificiellement. Le texte est un médium compressé, contrairement aux images. On ne peut pas modifier une phrase sans qu'un humain le remarque. Donc, toute marque cachée est fragile. Le système de détection d'écrit fonctionne en donnant à chaque token un score fondé sur les précédents, puis en choisissant, parmi les mots les plus probables, celui qui obtient le meilleur score. La détection est bon marché, alors que rejouer le texte entier sur le modèle serait trop coûteux et trop sujet aux faux positifs.
Et ce cadre européen impose aussi quelque chose au laboratoire, devoir offrir un service de filigrane gratuit à chaque citoyen européen. Dans la discussion qui a suivi, les échanges se sont tournés vers les risques de confidentialité. Un intervenant fait une distinction utile sur ce qu'on entraîne réellement. Google s'entraîne sur vos conversations, sauf si vous désactivez l'historique. Seuls les chats éphémères étant exclus, tandis qu'Anthropic propose un réglage et déclare ne pas entraîner par défaut. Le point qui en ressort. Au-delà de la technique, la question du filigrane touche directement aux données que les laboratoires conservent sur nos échanges et à ce que les utilisateurs acceptent en utilisant ces outils.
Terminons sur un projet lancé en démonstration sur Hacker News, MCP Memory, un serveur qui donne aux agents d'IA une mémoire à long terme persistante. Le principe, chaque souvenir est stocké dans un format lisible par un humain, du Markdown enrichi d'entêtes structurées et indexé en parallèle dans une base SQLite avec recherche plein texte. Cette double architecture est le cœur de l'idée, un répertoire de fichiers que vous pouvez ouvrir et relire et un index qui répond en moins de 20 millisecondes avec une isolation par espace de nom pour séparer vos projets.
Ce qui frappe dans la discussion, c'est la maturité des retours. Un développeur qui a construit son propre système équivalent précise que tous les modèles de pointe fonctionnent avec cette approche, à condition de ne pas l'utiliser pour la mémoire à court terme. Lui-même a d'ailleurs poussé plus loin que le projet de base. Il ajoute des liens sémantiques fondés sur les représentations vectorielles et des outils pour router les recherches. Une autre voix se montre plus sceptique, craignant qu'on enregistre des faits qui deviennent très vite périmés dans une base de code qui change, ce à quoi un autre répond que la gestion régulière reste la solution, comme pour de simples notes personnelles. Au fond, le projet montre une direction, donner aux agents une vraie mémoire de long terme sans renoncer à ce qu'un humain puisse aller voir et corriger ce qui a été enregistré.
On commence avec un problème de disque qui agace profondément une partie de la communauté Linux. Une discussion sur Hacker News démarre d'une issue GitHub ouverte contre Systemd qui documente une consommation excessive d'entrées-sorties imputées à Systemd Journal. Le rapport cite Systemd 25 septembre sous Debian 13 et décrit une machine virtuelle qui tourne autour de 50 entrées-sorties par seconde alors qu'elle ne fait qu'écrire 2 lignes de journal par seconde sur un système de fichiers XFS. Le comportement attendu, c'est un volume d'écriture dans le même ordre de grandeur qu'avec Syslog.
Mais le titre de la soumission Hacker News résume l'ampleur du problème. Une seule ligne de journal représenterait plus de 49 kilooctets d'écriture disque sur XT4 et plus de 110 kilooctets sur BTRFS. Un intervenant, Valdik SS, explique que c'est sa troisième tentative pour rendre son ordinateur de bureau Linux moins bavard sur le disque. Il pointe notamment l'amplification d'écriture massive sur BTRFS et les systèmes de fichiers avec copie à l'écriture. De petites écritures fréquentes provoquent jusqu'à 38,7 teraoctets écrits sur son SSD de bureau resté inactif pendant 2 ans.
Il liste plusieurs coupables concrets remontés au fil de ses investigations. Workrave synchronise ses statistiques toutes les 60 secondes. L'outil de presse-papier K2 Clipper écrit sur disque à chaque copie, même quand le stockage permanent est désactivé. Le Plasma Shell de K2E sauvegarde son cache de shaders Qt à chaque disparition d'une notification. L'extension Firefox de Bitwarden tente une connexion à l'application de bureau toutes les 10 secondes et écrit chaque échec dans le stockage web du navigateur, plus de 14 kilooctets à chaque fois.
Dans le fil, les participants font le lien avec une issue plus ancienne, référencée 15292, que l'auteur du rapport estime avoir été fermée sans bonne raison. Ce qui frappe dans tout ça, c'est la distance énorme entre quelques lignes de journal par seconde et des dizaines de kilooctets d'écriture physique par entrée. Une amplification de cet ordre-là explique pourquoi un bureau apparemment inactif finit par user un SSD en continu.
Changement de registre, côté infrastructure. Oxide publie un article signé Mathieu Sanabria, son premier ingénieur logiciel dédié aux solutions. En fin d'année 2024, des clients et prospects voulaient faire tourner Kubernetes sur Oxide sans qu'aucune intégration officielle n'existe encore. Dès sa première semaine, Sanabria reçoit deux choses. Un pull request d'un client pour un pilote de nœud en chair et une ébauche d'un document de conception interne, le RFD 493, sur les intégrations Kubernetes initiales.
Trois intégrations de provisionnement en sortent. La première est justement ce Pilot Rancher, un plugin exécutable qui traduit les opérations en requête vers l'API d'Oxide. Il a été testé, fusionné, puis publié avec l'intégration continue, la livraison continue et de la documentation. C'est la première intégration Kubernetes d'Oxide et un client l'utilise déjà en production.
La deuxième concerne Omni de Sidero Labs pour des clusters Talos Linux. Un fournisseur d'infrastructures a été bâti en 7 semaines juste avant l'événement conjoint Oxide et Sidero au KubeCon North America 2025. Un problème marquant, Oxide utilise un système de fichiers FAT12 pour les données utilisateurs Cloud Init, et non le format ISO 9660 attendu. Le détecteur de Talos s'arrêtait après l'échec de lecture du superbloc ISO 9660. Le contournement a consisté à ajouter des commentaires à la fin des données pour forcer la création d'un tel superbloc. D'autres problèmes ont été remontés via le dépôt Sidero Labs / Omni.
La troisième, Cluster API, a été différée faute de demande client et de capacité d'ingénierie suffisante. Dans la discussion, un intervenant décrit son cluster Kubernetes personnel sur Oxide avec le gestionnaire de contrôleur cloud pour les services de type Load Balancer et Nginx Gateway Fabric pour la Gateway API en s'appuyant surtout sur les ressources HTTP root. Il évoque aussi que le load balancer d'Oxide laisse une marge pour une intégration réseau plus poussée. Une bonne illustration de la façon dont la demande des clients a façonné la feuille de route d'un fournisseur.
On enchaîne avec une grande autopsie du web disparu. Un billet de blog sur 0.mk documente une mesure à grande échelle de la mort des liens. 0.mk était un raccourcisseur d'URL macédonien, lancé en 2009 par trois personnes qui travaillaient quelques heures par semaine. Il a fermé en 2014, faute de revenus suffisants pour couvrir l'hébergement, le développement et la lutte contre le spam.
Une sauvegarde retrouvée sur un disque a permis de restaurer 657 607 liens datés de 2009 à 2014, tous vérifiés en août 2026, sur plus de 655 000 cibles techniquement accessibles, 76,7% ne renvoyaient plus aucune page. Et pour écarter l'effet des doublons, les URL distinctes ont été comptées. 78,7% des 492 620 adresses uniques ne chargeaient pas. Donc la mortalité est bien réelle, pas un artefact de lien répété.
La ventilation, 51% d'échecs de connexion, environ 25% d'erreurs HTTP et un peu plus de 23% de réponses valides. L'auteur rappelle qu'une page qui ne charge pas ne veut pas dire qu'elle a disparu. Un mur de connexion, un domaine squatté ou un avis de suppression de contenu compte techniquement comme chargé. Le code 404 dominait largement et certaines réponses 403 ou 429 ont peut-être simplement bloqué le robot de vérification.
Une distorsion marque les données de 2011. Un seul compte avait créé 83 398 liens vers un même site. À l'échelle des URL, 92,5% de l'année ne chargeait pas, contre 60 et 1,7% en comptant chaque hôte une seule fois. Au global, sur plus de 133 000 hôtes, seuls 34 827 avaient au moins une URL qui chargeait. Quelques curiosités en vrac. 835 liens pointés vers l'ancien CDN photo de Facebook, aucun ne charge. Le tout premier lien raccourci était une feuille de style CSS. Localhost a été raccourci dès le deuxième jour. Et l'URL la plus longue fait 38 753 caractères, répétant la tentative d'URL maximale.
L'image d'ensemble est saisissante. Environ trois quarts des liens d'un aspirateur à URL des années 2009 à 2014 ne mènent plus nulle part. Une mesure concrète de l'éphémérité du web et un témoignage de la fragilité de la mémoire en ligne.
Passons maintenant à une affaire qui touche aux archives audiovisuelles et au stockage de données. 9PBS, l'affilié PBS de Saint-Louis, dans le Missouri, a déposé le 28 juillet une plainte contre Iron Mountain Data Centers devant le tribunal de district de Denver pour récupérer plus de 50 teraoctets de documents d'archives hébergés dans un centre de données Iron Mountain à Denver.
Selon la plainte, le fournisseur de stockage cloud de la station Open Source Storage a coupé l'accès aux données plus tôt dans l'année sans préavis, avant de devenir défunt. OSS entretenait une relation séparée avec Iron Mountain pour l'hébergement physique. Or, Iron Mountain a refusé de restituer les matériels, au motif que son client OSS détenait techniquement les services physiques hébergeant les données. La station s'est donc tournée vers la justice. Elle a demandé des mesures provisoires pour empêcher Iron Mountain de supprimer, modifier ou écraser ses matériels. Et un juge a accordé cette requête, avec une audience fixée au mercredi suivant.
Le vice-président et directeur des contenus de 9PBS, Léa Freeman, décrit des archives couvrant 70 ans d'histoire de l'organisation. Les matériels bloqués touchent notamment l'histoire d'East St. Louis, la pandémie de Covid-19 et la grande inondation de 1993. La relation avec le prédécesseur d'EES remonte à 2019, renouvelée chaque année. L'accord expirait le 6 mars, avec une fenêtre de 30 jours pour récupérer les données après la résiliation des services.
Point inquiétant au dossier. Le site web d'OSS était devenu inactif et la société affichait un statut de délinquance auprès du secrétaire d'État du Colorado. Une lettre de mise en demeure avait été envoyée à Iron Mountain le 13 mars, qui n'a d'abord ni confirmé ni infirmé détenir les données. Cette affaire illustre le risque du stockage délégué en cascade. Quand un fournisseur de stockage passe par un sous-traitant physique, une faillite intermédiaire peut bloquer l'accès à des archives irremplaçables. Pour terminer, une attaque matérielle qui a impressionné la communauté Hacker News au point qu'un commentateur la compare à une attaque par aliasing de mémoire dynamique déjà démontrée à l'échelle matérielle. Techniquement, elle est qualifiée de version accessible par logiciel de cette attaque. Les premiers retours parlent d'une attaque d'une grande ingéniosité.
Ce qui surprend, c'est le point d'entrée. Le bus mémoire vive était longtemps considéré comme hors d'atteinte, précisément à cause de la vitesse. L'idée que ce vecteur devienne atteignable par logiciel change la donne sur la façon de penser la sécurité mémoire. Dans les premiers commentaires, les intervenants relèvent avant tout sur l'astuce technique, détourner le cheminement normal des données pour atteindre la mémoire par une voie inattendue.
Le niveau de détail dans les commentaires reste allusif, mais le ton montre que la démonstration a marqué les esprits. Quand une technique réputée hors de portée du logiciel devient exploitable, les modèles de menace doivent être revus. On en reparle sans doute quand des analyses plus approfondies circuleront. Mais en attendant, c'est une démonstration qui mérite d'être suivie de près. Alors parlons de cet article de Quanta Magazine qui raconte comment un doctorant du MIT a réussi, là où beaucoup pensaient que c'était impossible, étendre un principe d'incertitude d'origine quantique à toutes les dimensions supérieures pour les fractales.
Et le plus impressionnant, c'est le nom derrière ce résultat. Alex Cohen, alors doctorant au MIT, a publié ce travail en 2025 dans les Annales de mathématiques, la revue de référence du domaine.
Le résultat est devenu sa thèse et il lui a valu un poste de professeur assistant à New York University à seulement 25 ans. Autant dire que c'est une trajectoire assez remarquable.
Pour comprendre l'ampleur, il faut revenir à 2016. Semyon Diatlov, du MIT, avec des idées clés de Jean Bourguin, qui est décédé peu après ce travail, avait prouvé ce principe pour les fractales en une dimension. Ces objets peuvent représenter les trajectoires d'objets se déplaçant en deux dimensions, comme des balles sur une table de billard.
Puis on a tenté d'étendre ça aux dimensions supérieures, lors d'un atelier organisé au New Jersey. Et là, le souvenir est clair pour Frédéric Nau, mathématicien à Sorbonne Université, qui y assistait. Personne ne croyait vraiment que cela pouvait être fait.
Peter Sarnak, de l'Institute for Advanced Study, qualifie le principe de résultat fondateur et souligne que c'est une réalisation assez remarquable pour un homme dans sa thèse.
Et ce qui est fascinant, c'est que tous les principes d'incertitude qu'on connaît, le principe quantique, le fait qu'un son bref ne puisse pas être finement connu en ton, ou encore le compromis entre l'impulsion radar et la localisation d'un sous-marin proviennent de la même source mathématique, la transformée de Fourier, cette équation du 19e siècle nommée d'après Joseph Fourier. Et puisqu'on parle de principes et de compromis, passons à un classique relancé sur Hacker News, l'article de Dan McKinley, Choose Boring Technology, publié en 2015. Malgré son titre provocateur, il ne défend pas la médiocrité.
Non, sa métaphore centrale, ce sont les jetons d'innovation. Selon McKinley, chaque entreprise disposerait d'environ 3 jetons d'innovation à l'offre fixe pour longtemps. Écrire son site en Node.js, adopter MongoDB ou choisir une technologie de service discovery de moins d'un an, ça coûte un jeton. Écrire sa propre base de données, là il est explicite, vous êtes dans le pétrin.
Mais attention, ennuyeux ne veut pas dire mauvais. MySQL, Postgres, PHP, Python, Memcached, Squid, Cron, ce sont des technologies ennuyeuses et bonnes, surtout parce que leurs modes de défaillance sont bien compris.
Et c'est là que sa distinction entre deux types d'inconnus prend tout son sens. Les inconnus connus, comme se demander ce qui se passe quand la base atteint 100% de CPU, et les inconnus inconnus, du genre. Écrire des statistiques provoque des pauses de ramasse-miettes, et personne n'y avait pensé.
Son vrai argument, c'est une optimisation globale. le meilleur outil est celui qui occupe la position la moins pire pour le plus grand nombre de problèmes. Parce que le coût de long terme d'un système fiable dépasse largement les inconvénients de construction.
Dans la discussion, Nick Naraghi, responsable produit et ingénierie, en fait l'un de ses postes préférés, car les jetons l'aident à faire ses arbitrages et à les expliquer à des collègues de tous niveaux. Mais Chadox conteste le cadre discret, il préfère lire ça en termes de dette et de risque. Une technologie non ennuyeuse soustrait du solde, et une dette limitée peut être acceptable si le pari offre un gros retour sur investissement. Et il souligne que tout écrire sur un nouveau runtime est risqué, alors que changer de fournisseur d'email ne l'est pas, ce qui révèle les limites de la définition floue de « ennuyeux ».
Voilà pour ce tour d'horizon. On retiendra en particulier la vision du magazine The Economist sur des agents d'IA peu scrupuleux, et le débat sur les filigranes, de toute évidence facile à contourner.
Sans oublier le lancement de l'agent de codage Bullet, l'arrivée de Gemini 3 juillet Flash, et cette question très concrète d'un serveur Linux qui souffrait d'un journal système trop gourmand en entrée-sortie.
Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un prochain épisode autour de solutions plus ennuyeuses, mais souvent bien plus fiables.